Regard SACEM, le podcast. Point de vue de créatrice et de créateur.
Je m'appelle Erwan Castex, je fais de la musique sous le nom de Rhône. Donc on peut dire que je suis compositeur de musique électronique principalement parce que j'utilise surtout l'ordinateur, des synthétiseurs, des machines. Voilà, aujourd'hui, je collabore beaucoup avec différents musiciens, différents instruments. Donc, je dirais que ça s'est un petit peu élargi. C'est plus tout à fait de la musique électronique, c'est de la musique tout court, je dirais. Toujours baigné dans la musique, j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents en écoutaient beaucoup. Donc voilà, il y avait une grosse discothèque à la maison et j'aimais bien piocher dedans et aussi me réfugier sous un gros casque, écouter de la musique comme ça. Ça me plaisait beaucoup. C'était un vrai refuge en fait, la musique, quand j'étais enfant. J'étais plutôt timide, introverti et je passais beaucoup de temps sous le casque à écouter de la musique. Et puis, en fait, j'en ai toujours un petit peu fait, mais pas vraiment de manière très académique, puisque j'ai jamais vraiment pris de cours de musique en dehors de l'école et du lycée. Et on sait que, en tout cas, à l'époque, c'était pas terrible de mon côté, niveau enseignement musical. Mais donc, c'était plutôt de manière une approche très instinctive. Je m'amusais parce qu'il y avait un piano, un vieux piano à la maison qui n'était pas super bien accordé, mais j'en faisais tout le temps. Quand j'ai découvert les possibilités qu'offrait la musique assistée par ordinateur, enfin les logiciels, au départ c'était Fruity Loops, et puis Reason, et puis Ableton. Là, ben voilà, je suis rentré dans un monde qui me semblait infini, avec la possibilité d'être une espèce d'homme orchestre, de faire tout, à la fois les rythmiques, les mélodies, le producteur, le mixeur, de faire tout de A à Z. Et j'ai passé des nuits blanches à faire du son. Sans aucune ambition, je dirais, à ce moment-là. Là, je parle de mon adolescence et je me disais pas que je serais musicien. Ça a pris du temps aussi, je trouve, pour construire quelque chose, pour me débarrasser, par exemple, un peu du syndrome de l'imposteur que j'ai pu avoir au début, justement parce que j'étais incapable de lire une partition et que je bricolais de la musique. J'ai souvent dit que j'étais un bricoleur plus qu'un musicien. C'est depuis très peu de temps que je dis que je suis compositeur ou musicien. Ce qui s'est passé pour moi, tout simplement, c'est qu'un label, le label Infini, avec qui je travaille encore aujourd'hui, a entendu mes morceaux et m'a proposé de sortir un disque, ce qui me semblait complètement fou, mais j'étais en même temps ravi. Mais voilà, dans ma tête, je me disais, j'ai beaucoup de chance, ils ont pas dû se rendre compte que j'étais pas un vrai musicien, faisons ce disque, et puis à mon avis, ça ne durera pas. Et en fait, derrière le disque, il y a eu un premier concert, un deuxième, ça a bien marché, un troisième, et puis un deuxième album. Et puis voilà, ça s'est jamais arrêté finalement. Et petit à petit, de projet en projet, j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris, d'avoir pris un peu plus de confiance aussi, de confiance en moi. Ça s'est fait finalement sur une période assez longue. Et d'ailleurs, c'est pas fini, je suis encore en train d'apprendre aujourd'hui et d'expérimenter. Le métier de musicien, pour moi, me paraissait complètement inatteignable. Je me disais, c'est pas pour moi. Je crois que j'avais tellement de respect pour mes idoles. Je me souviens que j'écoutais, à cette époque-là, là je parle du lycée, la fin du lycée, tout ça, j'écoutais énormément Miles Davis et tout, des icônes inatteignables, intouchables. Et pour moi, c'était ça. Le musicien, c'était impensable de vivre de la musique, surtout, encore une fois, sans avoir fait d'études. Enfin, voilà, ça me paraissait... J'y pensais même pas. Et il a fallu qu'un label, là j'ai eu beaucoup de chance, entende ma musique et me dise « Waouh, c'est vachement bien, t'as d'autres choses à nous faire écouter » pour que je commence à faire écouter mon travail et ce que j'avais vachement de mal à faire par moi-même auparavant en fait. Là je dois dire que c'est les réseaux sociaux qui m'ont aidé parce que j'avais quand même posté un morceau à moi sur ma page MySpace à l'époque et c'est comme ça que c'est arrivé jusqu'aux oreilles d'un label. Mais sinon j'avais beaucoup de mal à faire des démarches, à faire écouter ma musique... De toute manière, voilà, c'est ça le principe de ce label In Fine, c'est vraiment l'accompagnement de nouveaux artistes, de jeunes artistes. Et là, bon, voilà, maintenant, ça va faire presque 15 ans qu'ils m'accompagnent maintenant. Et je leur suis resté fidèle. Il y a une fidélité qui s'est installée entre nous comme ça. Mais au départ, voilà, ils sont venus me chercher. Je connaissais absolument rien au monde de la musique, enfin que ce soit, enfin techniquement c'était vraiment rudimentaire. J'avais appris moi-même tout seul de mon côté, je bricolais des choses et puis je parle même pas du côté administratif, du côté professionnel quoi. Là, j'y connaissais absolument rien et j'ai appris petit à petit avec eux. Et donc petit à petit, je me suis entouré en fait d'abord avec le label, mais aussi petit à petit avec des rencontres, des collaborations. Et j'ai réalisé que j'adorais ça, que ça emmenait ma musique ailleurs, que ça m'obligeait à me réinventer, que ça m'enrichissait. Et donc c'est vrai que j'ai commencé vraiment producteur de musique électronique. Mes premiers concerts, c'était au Rex Club, dans des soirées très électroniques. On me faisait jouer à 2h du matin. J'aimais beaucoup ça, hein, parce que j'ai, j'habitais juste en face et j'y allais en tant que spectateur. Donc j'étais ravi de pouvoir jouer là-bas. Et il y a eu toute une période comme ça où j'étais vraiment dans un réseau, dans un circuit électronique, on va dire, avec à jouer très tard dans des clubs, les gens qui dansent et tout ça. Et en fait, c'est vrai que petit à petit, je me souviens encore de mon premier concert à l'Olympia, parce que j'en ai fait pas mal, mais le premier était important parce que c'était nouveau pour moi de jouer dans une salle de concert. C'est déjà un rapport différent au club. Et un peu plus tard, à la Philharmonie de Paris, où là, c'était vraiment différent pour le coup, parce qu'en plus, c'était une carte blanche qu'on m'avait proposé, où j'avais pu inviter des musiciens. Ça, c'est une expérience, je dois dire, qui m'a vraiment ouvert à la fois le crâne et des portes aussi, parce que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça, ne pas m'enfermer dans la musique électronique, mettre de l'air dans ma musique, mettre éventuellement des vrais instruments, des voix, et puis ouvert des portes, parce que c'est un concert qui a très bien marché, et qu'on m'en a proposé d'autres par la suite, et puis effectivement, peu de temps après, ça m'a un peu ouvert les portes du cinéma, et puis après des spectacles vivants, enfin voilà, plus le spectre s'élargissait comme ça, et plus j'avais l'impression d'apprendre, de comprendre, donc maintenant ça continue, j'ai vraiment envie de... Les rencontres sont super importantes, je trouve, dans ce métier, pour pas tourner en rond, pour se réinventer, pour aller plus loin. Je me souviens encore du moment où, ça y est, j'ai pu devenir vraiment musicien à temps complet. Ça, c'était déjà une étape importante. Et aujourd'hui, en fait, non, très honnêtement, y a une économie, finalement, pour un musicien comme moi, qui est assez stable, entre celle de la sortie d'un album et de la tournée qui suit. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pendant 2-3 albums. C'était assez, il y avait une espèce de routine qui s'était installée où je sortais un album, je faisais une tournée de 1 an ou 2 derrière, et puis je sortais un nouvel album, et puis une nouvelle tournée. Et finalement, je m'y retrouvais comme ça, entre les cachets des concerts, les ventes de disques évidemment un peu moins, mais par contre les droits d'auteur, parce que parfois ma musique était utilisée sur des pubs, enfin voilà, il y avait des choses comme ça. Depuis toujours, j'avais envie de faire des musiques de films. Ça, c'était justement peut-être avec mon passé d'étudiant en cinéma, tout ça, c'était un truc qui m'attirait beaucoup. Et là, maintenant, j'ai vraiment un pied dedans et c'est super. Et du coup, je m'étais fixé une espèce de règle en me disant je fais une musique de film par an. Et ça me semble pas mal. Ça me permet de faire d'autres choses aussi parce que j'ai envie de faire d'autres choses. Je me sens très chanceux parce que c'est vrai que je trouve que c'est une chance de pouvoir continuer à jouer dans un club à Berlin à 5h du matin et à la Philharmonie à 20h. Enfin ça, je trouve que c'est peut-être la chance que j'ai et que je veux absolument préserver et cultiver. Et voilà. Je pense que c'est un métier qui est en permanente mutation. Là, je pense qu'on est dans une période où tout s'accélère un petit peu, il y a plein de changements. Ne serait-ce qu'effectivement par... Il y a avant et après la pandémie, je trouve. En tout cas, moi, c'est plus pour des problèmes de conscience personnelle, mais c'est vrai que, enfin, je sais que je suis pas le seul musicien à penser comme ça aujourd'hui, mais ça a changé complètement la donne sur les tournées, par exemple. Pour moi, il est hors de question de faire un aller-retour en jet pour faire un concert à l'autre bout du monde. Enfin, maintenant, il y a quand même une nécessité d'être raisonnable, et de faire des tournées qui ont du sens. Donc il y a toute une réflexion autour de ça qui fait que ça change quand même, mine de rien, le métier un peu de musicien. Pour moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ça nous oblige à pas rester, à nous reposer sur nos lauriers et à nous réinventer. C'est même assez excitant, en fait, je dois dire, parce que de toute manière on aura toujours besoin de musique et de musiciens. C'est juste arriver à se réinventer, à comprendre la société actuelle, éventuellement même à l'anticiper un peu pour avoir un petit longueur d'avance. Enfin, c'est super excitant. Je réfléchis, est-ce que c'est plutôt à la source? Est-ce que ça serait démocratiser encore l'accès à la musique, par exemple, pour les enfants, que tous les enfants puissent essayer de s'exprimer plus facilement en musique très tôt, parce que c'est une chose géniale et que finalement, c'est pas encore accessible pour tout le monde. On peut toujours se débrouiller pour avoir du matériel et essayer des choses et tout ça, mais voilà, il faudrait que ça soit encore plus accessible, que ce soit encore plus démocratique et que vraiment horizontal, que chacun ait la possibilité de faire de la musique très tôt. Ça serait peut-être la chose la plus importante. Je dirais que ça se joue à cet endroit-là, quoi.
Vous venez d'écouter le podcast du Regard SACEM. Entretien réalisé par Pascal Bertin. Plus d'infos sur regard.sacem.fr.